bande originale avec Léa Cadobo.
Bonjour Dani, à tous.
Fanny Ruet, Daniel Morin.
Bonjour Fanny.
Tom Villa. Tout à l'heure, Tanguy Passureau est notre invité Thierry Lhermitte.
Oui, Thierry.
Bonjour Thierry, merci
bonjour,
de venir à ce micro.
Ah, merci de m'accueillir.
Non, mais c'est vrai, c'est un plaisir. Alors, nous n'avons pas vu la pièce que vous allez interpréter à partir de là, deux
elle
jours.
Commence jeudi,
le 16.
Oui.
En revanche, on a lu ce texte.
On a lu le
très
texte.
Beau texte.
Ouais, je peux vous dire qu'on n'aura pas à voir la pièce maintenant qu'on l'a lu.
Si, parce que c'est extrêmement touchant et émouvant. Ça s'appelle Fleur de soleil. C'est un texte de Simon Wiesenthal, d'après Sunflower. Qui a été publié par signé par Simone Wiesenthal. C'est un texte qu'il a...
De Simone Wiesenthal, c'est le deuxième livre. De
avec mise en scène par Steve Fussa, avec la vraie question de peut-on tout pardonner. C'est sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le comportement des nazis, et sur la première scène, enfin vous allez me dire jusqu'où on peut raconter.
La première scène,
c'est un prisonnier juif qui est convoqué par une infirmière, déjà... qui est ailé par une infirmière en disant « Monsieur, est-ce que vous êtes juif ?» Et là, pendant deux secondes, on se dit « Est-ce qu'il faut répondre oui ou non en fonction du résultat malheureusement attendu ? Est-ce que ça veut dire « Venez par là, on va vous passer au peloton d'exécution dans une chambre gaz ?» Et de l'autre côté, en fait, l'infirmière demande à ce que ce prisonnier l'accompagne pour rejoindre un SS mourant.
Qui va lui raconter une horreur qu'il a commise pendant la Shoah par balle en Ukraine et lui demander son pardon. Voilà. Cette question a hanté Wiesenthal pendant toute sa vie. Est-ce qu'il aurait dû pardonner ou pas? Voilà.
Donc, parce que c'est une histoire vraie?
Oui, c'est ce que raconte Wiesenthal en tout cas.
Qui est devenu chasseur de nazis après la...
Oui, Wiesenthal, il a fait le centre de documentation, il a contribué à l'arrestation de plus d'un millier de criminels de guerre nazis, et cette question l'a hanté toute sa vie, et quand son livre est sorti, il a posé la question à des dizaines de personnalités, des grandes figures morales de l'époque, dans les années 60, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que vous auriez fait? Donc il y a à la fois le récit, et puis les lettres extraordinaires de Simone Veil à Mathieu Ricard, au Dalai Lama, à Desmond Tutu, à des rabbins, à des évêques, à des philosophes.
C'est ça aussi, toutes les religions répondent, bouddhisme, le judaïsme, le catholicisme, tout le monde répond et toutes les fonctions répondent. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que chacun fait la sienne.
Chaque fois qu'on entend une lettre on dit oui, il a raison, et puis ensuite,
ça prête à discussion. Ouais. Moi, ça m'a fait cogiter toute la soirée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon extérieure? Enfin, selon le point de vue qu'on adopte, c'est aussi ça, la proximité avec l'histoire, et puis le jour où on en parle, l'interlocuteur qu'on a, notre avis va différer.
Oui, les circonstances. Il y a une lettre dingue qui est...
Il y en a une qui vous touche Albert, plus.
La dernière, évidemment. C'est un philosophe, un romancier roumain qui s'appelle Petru Dimitriou, qui est absolument sublime. Et puis la première, on a mis, c'est Albert Speer, l'architecte et ministre de l'armement du Reich, qui a rencontré Wiesenthal et qui écrit une lettre absolument incroyable.
À découvrir donc, c'est au Théâtre Antoine à partir de ce jeudi 16, et attention, ça va pas durer non plus trop longtemps, 40 représentations exceptionnelles jusqu'au 29 mars, donc il faut pas louper Thierry Lhermitte. Déjà Thierry Lhermitte au théâtre, c'est un événement, et en plus cette pièce, elle est totalement bouleversante et riche d'enseignements, déjà riche d'enseignements parce que il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, riche d'enseignements puisque c'est une histoire vécue par Simon Wiesenthal, et riche d'enseignements sur vous, c'est vous qui décidez de l'être humain que vous êtes finalement, et de se dire si j'avais été lui, comment.
Et puis la question qui se posait à ce moment-là, puisque ça se passe en 42 et qui s'est posée toute sa vie, elle a continué à se poser. Hélas, les génocides ne sont pas arrêtés. Alors comment vivent les Tutsis et les Hutus au Rwanda? Comment vivent les victimes de Pol Pot?
Et sans aller à ces horreurs, sans aller jusque-là, la notion du pardon déjà, quelle est.
Alors, quand on vous a marché sur les pieds, c'est un peu différent.
Merci Thierry. Ça dépend qui te marche sur le pied.
C'est selon son poids et tout. C'est ce rapport à l'humanité qui nous reste aussi, parce qu'on peut avoir été victime de quelque chose et pour autant, faut-il continuer toute sa vie à se construire comme une victime et ne pas accepter d'être humain?
Oui, d'être que victime.
Voilà, que victime.
Chaque lettre, elles sont vraiment très convaincantes.
En tout cas, les nazis prenne plein la gueule.
Du...
Stigmatisation du nazisme.
Je dis ça, je dis rien. Hein. 16 janvier au 29 mars, puisque vous êtes de plus en plus nombreux.
Il n'y a pas de triomphalisme.
Non, non, je dis juste, nous sommes de plus en plus nombreux. À... Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter dans cette émission. Je vous encourage à aller voir au Théâtre Antoine Thierry Lhermitte du 16 janvier au 29 mars. Ça va comme ça, Daniel ?
C'est sobre.
Bien,
c'est propre.
D'accord, ok.
Bon, on pourrait peut-être aussi envisager une version, j'ai envie de dire, un poil plus célébration,
non.
quoi.
Restons discrets, on verra.
Si nous jouions à ce jeu qui nous fait prendre
un sondage. Peut-être à midi.
Rien ne fonctionne.
Non,
là, donc ça bien.
Est-ce que je vais le faire à la bouche.
Je crois qu'on a perdu 50 000 auditeurs.
Est-ce qu'on peut avoir le générique de l'intro et des affirmations, s'il vous plaît.
C'est approximatif, cette émission.
Ah oui, très bien. Thierry, voici des affirmations qui sont autour de votre vie. Certaines sont vraies, d'autres fausses. L'idée, évidemment, c'est que vous grugiez tout le monde et sans savoir finalement ce que vous ouvrez comme papier. Je vous laisse découvrir tout ça.
Alors, mon fils a gagné de l'argent. Ça, c'est pas vraiment vrai. En vendant des autographes.
Alors, le but, c'est de nous faire croire.
Mais non.
En vendant des autographes que je lui avais signés.
Un beau petit commerce. Donc, moi, je sens que c'est pas tout à fait ça. Je sens qu'il y a un fond de vérité.
Un petit commerce.
Je le piffe.
Ouais. Ok.
Je comprends pas.
Chacun pose une
mon
question.
Mon fils a gagné de l'argent en vendant des autographes que je lui avais signés.
Mais déjà, qui signe un autographe à son fils?
Il demande une liste.
Est-ce que tu peux, j'imagine, pour Monique, est-ce que tu peux signer un autographe pour Monique? Donc Thierry Lhermitte signe bisous Monique, signé Thierry Lhermitte.
Ensuite, il le vend à Monique.
Et il le vend à Monique.
Voilà.
Je crois que c'est ça.
Il est déjà marié.
Il faisait ça à quel âge?
7 ans.
Mm-hmm. Tom Villa.
Il les vendait combien à peu près?
Oh, c'était dû les vendre un franc.
Oui,
c'est en
francs
à l'époque.
C'est
hein.
Business, ouais.
Oui, c'est sûr.
Est-ce que vous les faisiez payer à votre fils les autographes?
50 centimes.
C'est drôle. Il y avait une marge.
Non, c'était à l'insu de mon plein gré.
D'accord.
Et vous n'aviez pas honte? Vous n'étiez pas un peu gêné?
Quand je l'ai appris?
Ouais.
Ah oui. Alors, bah, si.
Alors comment vous l'avez appris?
Très, très gêné.
Comment vous l'avez appris, Thierry?
Ben, il me l'a dit, il était fier.
Dernière question. Ouais.
Est-ce qu'il a essayé de nous en rendre un?
À votre avis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que le fils de Thierry Lhermitte faisait commerce des autographes de Thierry Lhermitte?
Mais pas contre de l'argent, j'ai envie de dire. Je pense qu'il troquait des choses.
Des bonbons,
Fanny.
Peut-être.
Moi, je dis que c'est vrai.
Vrai. Leïla.
Non, pas totalement vrai.
Faux.
Eh ben, c'est vrai.
Ah ouais? Bien joué, parce que tu commences en disant c'est faux.
C'est hyper fort. Hein.
C'est vrai, j'étais au départ d'une course de bateau. Moi, j'étais au fond du bateau en train de... Il m'avait dit, il y a des gens qui veulent des autographes. Alors, j'avais signé des photos avec des autographes. Je bricolais dans le bateau, et puis les gens, ils étaient sur le quai. Et puis Victor, il leur vendait. C'était un euro, un franc.
C'est génial.
Il dit, t'as vu? J'ai eu 10 francs.
C'est génial. Il a eu un sentiment de gêne de votre part ou...
J'étais fou. Je lui ai dit, t'es dingue, c'est pour donner et tout. Bah non, ils l'ont acheté.
Et qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? Vous l'avez gardé?
Ah oui, non, il a placé sur un compte.
Non, mais.
Un million d'euros.
Il a acheté des bitcoins.
Non, est-ce qu'on laisse son fils dépenser de l'argent, ces 10 francs qu'il a.
Mais Leïla,
j'ai pardonné.
Mais Leïla, tu verras quand on.
Oh, la morale. Non, mais.
Quand on demandera un autographe, tu verras que tu peux demander de temps en temps.
Des sous, ouais.
Une autre affirmation, s'il vous plaît, Thierry Lhermitte. Le hasard.
Là voilà.
Que là, on tombe sur
alors,
quoi?
J'ai demandé une seule fois un autographe dans ma vie.
Alors, reste avec les autographes.
Ouais.
Il a demandé un autographe une seule fois. Fanny.
Qui?
Ah, pardon.
Oui,
tout
non, non,
vas-y.
Fanny.
Fanny. À qui?
À qui? Voleuse d'idées.
Comment il s'appelait? Non, vous allez comprendre. Le gamin qui jouait dans Les Choristes.
Jean-Baptiste Meunier. D'accord.
Voilà.
Tom Villa.
Ok. À quelle occasion?
Dans une émission où il était là, j'ai demandé un autographe.
Vous l'avez vendu combien?
2 euros.
Mais alors, comment vous pouvez expliquer que ce soit la seule personne à qui vous l'ayez demandé dans votre vie? Pourquoi?
Parce que je demande pas d'autographe, voilà.
Oui, mais donc, pourquoi lui?
Ah, pourquoi
ou
lui?
Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dont vous auriez aimé avoir un autographe?
Ouais, mais moi je préfère d'abord
non.
Pourquoi lui?
Pourquoi lui? Parce qu'on l'avait demandé.
Pardon?
Parce que c'était pour quelqu'un, on me l'avait demandé.
C'était pour qui?
Pour ma fille.
D'accord. Ça s'appelle comment?
Louise.
Oh bah genre,
on peut vérifier.
Faux. Et vous n'avez pas de fille. Fanny Ruin, dernière question.
Il a réagi comment?
Bah, il a signé l'autographe.
Remarque, c'est vrai, ouais, c'est pas bête comme question. C'est Jean-Baptiste Monique.
Je me souviens pas. Est-ce que si je lui ai dit que c'était pour ma fille ou pour moi.
Est-ce que c'est vrai?
C'est vrai.
C'est faux. Ah, toi, tu dis c'est faux, Tom, et tout le monde dit vrai.
Tu peux avoir une explication, une raison?
Non,
c'est comme ça.
Tout le monde dit que c'est vrai.
C'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est ma fille qui avait quelques, je sais pas quel âge.
Elle était fan, elle avait pleuré devant les choristes.
Oui, elle devait avoir 8-10 ans, un truc comme ça. Elle était dingue de Jean-Baptiste Monnier.
C'est marrant parce que alors, Jean-Baptiste Monnier, je l'ai croisé dans une émission, je vais le voir et je lui dis « je ne vous aime pas ». Et là, pendant 2 secondes, il a eu un petit flip et un gros silence. Et je lui dis « vous avez fait pleurer ma fille au cinéma ». Et après, le mec, il s'est un tout petit peu détendu.
Ouais.
Mais il était très sympa, il est toujours très sympa, Jean-Baptiste
Monnier. Non, c'est quand même
c'est très sympa.
Salaud.
Allons-y.
Thierry. J'ai mangé de la viande de cheval dans le Montana.
Ah, c'est l'endroit.
Ouais. Ah oui. C'est là où on trouve la meilleure. Joey. Ah oui. Fanny Rué.
Ben, à quelle occasion?
Un repas. Au restaurant.
Au restaurant.
Merci Thierry.
Leïla. C'est la seule fois où vous en avez mangé dans votre vie ou vous avez continué à le faire?
Ah non, j'ai pas continué à le faire, mais j'en avais déjà mangé avant.
Tom Villa.
Quelle est la particularité de manger du cheval dans le Montana? On peut en manger dans plein d'endroits?
Malheureusement.
Ouais, mais je suis pas un hypophage. Convulsif. C'est l'occasion qui a fait le larron.
Daniel Morin.
Est-ce qu'il était mort?
L'animal était décédé.
Est-ce qu'il y avait Omar Sharif?
Et vous saviez que c'était la viande de cheval?
Oui.
Vous saviez vraiment?
Oui.
Ça m'étonne de vous.
Ouais.
Elle est déçue.
Ouais. Non, pas déçue, mais ça m'étonne. Parce que...
Et le fait que vous ayez raté un rôle dans Japlou, ça n'a pas joué. Un
Allez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
C'est faux, c'est un cavalier. C'est un cavalier.
Alors, c'est vrai et faux, parce que c'était pas dans le Montana, c'était en Suisse. Et d'accord. En Suisse, on mange beaucoup de viande de cheval, de poulain même. C'est encore pire. Et une amie avait
vous dites c'est encore pire, ça vous choque?
Non, pas pire. Pour les gens qui sont choqués par ça, en tout cas, c'est un peu pire. C'est tout mignon, un poulain. Bon. Et
c'est
donc,
comme une escalope de veau.
Et c'était très bon, qu'est-ce que je vous dis? C'était très bon.
Vous avez juste goûté?
J'ai goûté pour voir,
Et vous êtes cavalier?
Oui, très.
Non, mais je veux dire, mais à table aussi.
Oui, je sais pas.
Et vous comprenez que ça puisse. Parce que Leïla dit. Non,
je ça m'étonne, c'est comme j'ai lu dans votre bio que vous adoriez les chevaux. Que c'est...
Mais la preuve, ils les adorent et les mangent.
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de viande de cheval dans les boucheries, il n'y en a plus beaucoup en France, mais beaucoup en Italie, dans d'autres pays, il y a plein de races qui n'existeraient plus parce qu'elles n'auraient plus d'utilité. Elles seraient dans les eaux, peut-être.
Et le Montana.
J'y vais souvent, j'y allais souvent.
Pour dresser? Pour éduquer un cheval?
Oui, pour apprendre ou même pour profiter. J'y vais plus depuis l'élection de...
Allez, de
tu sais qui.
Dernière question, Thierry, je vous en prie.
Je ne suis pas là. J'ai acheté mon premier ordinateur en 1980.
Waouh.
Non, ça serait...
C'était quoi comme modèle?
C'est une année, ça?
Ah, pourquoi, tu veux une marque?
Oui.
Ah oui.
Si elle n'existe plus, c'est pas grave.
Ouais.
Ah oui, ça existe.
Amstrad.
Oui.
Ok.
6128.
Et ça coûtait combien à l'époque? C'est très cher.
8 autographes.
Non. Je pense pas que c'était si cher que ça, non.
Ah bon? Fanny,
je m'en rappelle pas. Franchement, je ne me rappelle pas.
On savait faire quoi avec un ordinateur à l'époque?
Il y avait des petits jeux qui étaient sur cassette et puis on pouvait programmer. C'est ça qui me plaisait.
Ouais.
C'est qu'on pouvait programmer en basique. Ce que vous souhaitiez voir apparaître sur l'écran. C'était ça qui était marrant.
Daniel Morin,
c'était de la curiosité ou un investissement?
C'était de la curiosité, non, j'adorais ça.
Vous l'aviez acheté où, si ça vous a marqué comme ça?
Je me souviens plus.
Okay. Ouais.
Mais il n'y avait pas MSN?
Il n'y avait pas
de couleur.
Il y avait un peu de couleur.
Il y avait pas de souris. Couleurs.
Non, pas de souris. Non.
C'était il y a 40 ans.
Il n'y avait qu'un seul modèle à l'époque? Non,
il y en avait plusieurs, mais. Honnêtement, j'en ai acheté très tôt, mais sur la date, je suis un peu flou.
Daniel Morin,
vous en avez changé depuis?
Je regrette de ne pas l'avoir gardé.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, Fanny?
C'est vrai. Je dirais que c'est faux.
C'est faux,
c'est
Daniel.
Vrai.
Très très vrai.
C'est vrai.
C'est l'un des pionniers d'Internet qui nous explique.
C'est vrai. Alors, je dis, je suis un peu flou sur la date, hein, mais je l'avais déjà quand mon fils était en âge d'aller taper sur les trucs. Donc, ça doit pas être loin de ça.
Mais oui, vous êtes l'un des premiers. 1980.
Ouais. Bah, des premiers, des dans les milliers qui sont intéressés.
Je ne crois pas qu'il y en ait eu tant que ça au début, en tout cas. Et Leïla a raison. D'abord, ils étaient plutôt imposants en termes de volume, mais pas très efficaces dans des années où l'informatique était dans ses prémices, quand même.
Oui, oui, c'était ça, mais il y avait déjà des magazines grand public et tout, donc je ne suis pas non plus, je ne l'ai pas monté. Les premiers, ils le
construisaient. Fabriquaient lui-même, ils le vendaient tout fait.
Ouais, ouais,
très bien, très bien. Retour à la vérité, vous qui êtes nombreux à nous écouter.
Il n'y a pas de triomphalisme.
C'est vrai, c'est vrai. On a dit qu'on faisait sobre.
J'ai joué.
C'est qu'une information. On est champion du monde de football.
Je crois qu'on a perdu tous ceux qu'on avait gagnés.
Ils sont trop nombreux, 200 000 de plus. Donc, vous serez du 16 janvier au 29 mars, seul en scène, une pièce que vous avez déjà jouée en octobre dernier.
Je l'ai jouée sept fois.
Non, ah,
j'ai joué sept fois, j'ai joué en tournée. J'ai joué en Israël deux fois, à Jérusalem et à Tel Aviv. Et ensuite, en France, cinq dates.
Dans quel dans quel état on sort de scène? Parce que j'imagine que vous devez ressentir des ondes de la réaction de la part de ceux qui sont dans la salle, que vous-même vous portez ce texte avec une émotion qui est forcément envahissante. On sort pas indemne d'un texte comme ça. Nous, en le lisant, on sort pas indemne. On a hâte de vous voir sur scène.
Je suis très heureux en sortant parce que chaque fois ça a été intense, émouvant et tout ça. Et puis un quart d'heure après, je me dis putain, faut recommencer demain. Oui, voilà, franchement, c'est pas que c'est lourd, le texte est lourd, mais c'est juste que d'être seul en scène avec ce texte-là, faut y aller, quoi. Donc, je suis content de l'avoir fait, et puis je me dis, je suis retourné.
Pourquoi elle vous dit oui?
Et je ne sais pas, franchement, non mais pour tout vous dire, la genèse de ce truc-là...
C'est vous qui avez repéré le texte.
C'est, je le lis, c'est une suggestion de ma liseuse, puisqu'on ne dit pas les noms. donc je télécharge un extrait.
On ne balance pas.
Vous avez laquelle?
La Strada.
La Kobo ou la Kindle?
Un gros truc comme ça. Et donc je lis un extrait, du coup j'achète le bouquin, qui me passionne, je le fais lire à Jean-Marc Dumontet, qui est producteur, mais par amitié, parce que je l'ai fait lire à plein de copains et amis, parce que le texte est extraordinaire, et un an plus tard, il me dit, je l'ai fait adapter ce qui ne m'était pas venu à l'esprit. Et je lui dis, bah bon, pour qui? Il dit, bah pour toi, si tu veux. Oh, moi, je m'étais juré de jamais jouer tout seul en scène. Et puis, voilà, travail, réécriture, adaptation, papapam, et puis me voilà sur scène, voilà.
Et j'imagine qu'à la sortie de scène aussi, il faut discuter avec le public. Enfin, ça génère des conversations, donc vous êtes sans doute un peu...
On l'a pas fait encore, non, franchement. Oui, avec les gens qui viennent me voir après, ça discute. Il y a eu un petit micro-trottoir à la dernière représentation qu'on a faite à les gens savent plus. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Et puis, c'est pour ça qu'on a mis les textes, parce qu'au début, j'avais fait des lectures sans les commentaires ou les lettres. Et les gens, là, du coup, ils disent « Ah, je pardonne pas. » Point.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Pas plus loin que ça. Quand on entend ce que les gens disent...
Je rappelle, un SS a perpétré un massacre, tué des personnes innocentes, demande, parce qu'il sait qu'il est condamné et qu'il va mourir, demande à un juif tiré au hasard, presque dans le camp, de lui pardonner au nom entre guillemets de tout son peuple. C'est ça la question, c'est que faire dans ce cas-là. Est-ce que d'ailleurs la simple démarche de demander pardon ne se suffit pas à elle-même, même s'il n'y a pas le oui? De quel droit une personne seule pourrait dire pardon au nom de tout un peuple?
Non, mais pardon
n'est
valable que si on te l'accorde. Après, dire pardon comme ça,
est-ce
qu'on peut pardonner pour les autres?
Voilà.
Parce que moi, je pardonne tout ce qu'on t'a fait, tiens, Morin.
Moi, je suis très généreux. Vous êtes très généreux.
Surtout avec les ennemis
du dossier.
On ne peut pas ne pas pardonner à un seul homme qui ne représente pas non plus tous les nazis? Enfin, c'est aussi la question.
Là, le pardon, il est individuel, là, le mec, il demande pardon pour lui, parce que.
Pas au nom du pays, ni au nom de.
Parce qu'il s'est repenti.
Mais il demande pour lui. Et il demande le pardon du peuple.
Du peuple.
Oui, mais voilà, des autres.
Un ambassadeur choisi au hasard.
Pour d'autres, dans quelles conditions, comment, pourquoi, voilà.
S'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas eu, voilà, parce qu'il va mourir en plus. C'est pas comme c'est pas comme si cet homme-là allait ensuite être traduit devant la justice. Non, il va mourir.
Il va mourir.
Donc, est-ce qu'on lui apporte ce dernier apaisement avant l'au-delà ou pas?
L'au-delà.
Non, ça change la donne qu'il soit mourant.
Oui. C'est riche.
Est-ce que vous changez de peut-être pas à chaque représentation, mais est-ce que votre conviction personnelle évolue aussi en fonction, peut-être, je sais pas, de votre humeur, du...
Non, voilà, ma conviction, c'est celle de la dernière lettre, qui est de Petru Dimitriou, et...
Qu'on ne va pas dire.
L'homme est une question de persévérance.
Voilà, ouais. C'est ça. Totalement d'accord. Mais donc, elle est écrite pour que... Alors, si c'est un point commun, toi aussi, Laïla?
Ouais.
Donc, elle est écrite dans ce sens-là? La dernière lettre qui est la plus...
Oui, on l'a mis exprès parce que c'est notre conviction, voilà. Moi, ma conviction, c'est pardon, à condition de justice, parce que sans justice...
Pas de paix.
À condition de repentir, et là, peut-être. Voilà. Ça dépend des circonstances.
Est-ce que le pardon va aussi avec une forme de religion?
Non, c'est de la morale, c'est pas de la religion. Est-ce qu'on apporte du bien? Pourquoi on pardonne? Voilà, j'ai lu des bouquins, alors le papa étalait ma culture, mais pourquoi on pardonne? Voilà, pour soi ou pour faire du bien à l'autre? Pour être meilleur soi ou être d'apporter un réconfort
alors,
à l'autre.
Donnez-nous la réponse.
Voilà.
À votre, quelle est la réponse?
Moi, je me disais quand je pardonne beaucoup. En fait, non, je pardonne pas. Je laisse derrière moi pour pas être encombré.
Ouais.
Donc mon pardon, il est extrêmement égoïste. Donc est-ce que c'est le vrai pardon? Parce que le pardon, c'est comme l'amour. C'est un geste inconditionnel entre guillemets, voilà, qui demande ni cadeau ni récompense ni c'est un geste d'amour. Moi le pardon que j'accorde, non, il est en fait très égoïste, je me suis rendu compte. Je laisse derrière pour pas que ma vie soit encombrée par du ressentiment. C'est derrière, c'est fini, je m'en occupe plus, voilà.
C'est ce que expliquent très bien les parents, par exemple, qui ont perdu leur enfant et que et voilà, quand l'homme qui a tué leur enfant est en prison, parfois il y a ce travail là de pardon, soit pour évacuer une rancune parce qu'on se sent pas heureux avec, on se sent pas très beau, soit parce qu'on veut vraiment aller dans un rapport d'amour.
Les bouddhistes, ils disent voilà, dans la pesée du bien et du mal dans le monde, et on ajoute sa petite pierre du côté du bien. Voilà.
Mais parce que beaucoup de conneries, les bouddhistes aussi.
Oui,
il faut faire le tri.
Oui, je suis d'accord.
Je suis sûr.
Est-ce que c'est pas une... C'est une manière différente aussi d'évoquer la Shoah, c'est une manière aussi différente de ne pas oublier en racontant ce qui s'est passé, surtout si cette histoire est vraie en plus, c'est-à-dire que...
Oui, bien sûr. C'est un truc de mémoire, c'est vrai, mais qui transcende un peu l'événement qui est unique et inoubliable, enfin qu'il ne faut pas oublier en tout cas, mais je dis, la question se pose également au Rwanda et au Cambodge. Et puis, tant que le mal existera, ça risque pas de s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait après le mal? Voilà.
Ce qui est fou, c'est que la personne en question, c'est Simon Wiesenthal, troublé et il est pas en paix avec lui-même finalement par son refus du pardon, puisque c'est ça, il y a le refus du pardon et ça arrive au tout début de la pièce, et ensuite ça
l'obsède toute sa vie, et ensuite il va voir la mère de ce soldat et qu'elle veut garder sa mémoire. Comment lui dire, pourquoi lui dire? Elle est sûre que son fils, il a pas pu faire ça. Qu'il a toujours été tellement droit. Il a jamais pu faire des erreurs pareilles de ce qu'on raconte. Comment lui dire? Pourquoi lui dire? Donc, il se tait. Il se tait avec le SS. Il se tait avec
sa mère.
Ça,
c'est un moment très fort.
Et les gens se sont tus quand ils voyaient des femmes et des enfants envoyés à l'abattoir. Ouais. Le silence est un bouclier bien commode.
Voilà. La manière de monter ce spectacle, la mise en scène en tout cas, se fait justement avec un système de voix, de projection, de lumière.
Il y a des infographies avec les textes qui sont dits, puis moi je lis, puisqu'il y a 8 lettres qui sont liées avec des points de vue tous différents. Il y a des voix d'acteurs.
D'accord.
Il y a des acteurs.
Donc, ce ne sont pas des documents, ce ne sont pas des documents.
Des photos, des vidéos, où on voit les auteurs.
OK.
Et puis, des voix d'acteurs que je remercie, qui ont donné leur voix pour.
Qui font lecture de cette lettre.
De ces lettres. Et puis, moi, j'en lis deux, voilà.
Et vous pendant les lectures, puisque vous êtes Simon Wiesenthal. Vous n'êtes pas en scène.
J'en écoute.
Le moment d'écoute est toujours un moment important aussi dans le jeu d'un acteur.
J'écoute, mais j'écoute de derrière la scène. Voilà, écoute, je vais me un petit verre d'eau.
Oui, très bien. 40 représentations exceptionnelles à partir du 16 janvier, ce jeudi, jusqu'au 29 mars. L'avoir déjà joué, c'est rassurant, mais il y a une pression supplémentaire de le faire à Paris?
Bêtement, oui. C'est un peu idiot.
Hein, vous dites bêtement.
C'est idiot.
Il reste quelques nazis à Paris.
Pourquoi pas Buenos Aires?
Je l'ai joué. Le public de Florange, de Porto Vecchio ou de Béziers est le même qu'à Paris. Donc c'est un peu idiot.
De jouer à Jérusalem, ça doit être extrêmement émouvant.
Oui, il y avait la famille, enfin une partie de la famille Wiesenthal qui était là. Je commence en disant je m'appelle Simon Wiesenthal. J'avais peur qu'il se lève, qu'il dise c'est faux.
C'est Thierry Lhermitte. J'ai payé un franc sur l'autographe. Et je m'appelle pas Monique.
Il a bouffé mon cheval.
Pas à la hauteur, tu vois. Voilà.
Oh non. Au théâtre Antoine, Thierry Lhermitte, Fleur de Soleil. On expliquera tout à l'heure aussi le titre. Fleur de Soleil, extrêmement poétique, évidemment. Mais d'abord, voici Tom Bila. Je ne sais pas si vous le savez, Thierry Lhermitte, mais Tom Bila est expert en rien, n'est-ce pas, Tom ?
Donc du coup, Thierry, je suis bien placé pour parler de plein de sujets.
Voilà. En doudoune sans manche, en tout cas.
Tu t'es fait gauler.
Je l'ai entendu l'autre jour.
Ah oui, absolument. Ah, ouais. Sur les doudounes
sans manche. Une chronique sur les doudounes
sans manche. Oui,
les doudounes sans manche. Possible. Du coup, j'ai laissé la mienne dans le...
Non, c'était Tanguy. C'était Tanguy.
Ah,
c'était
Tanguy. Ah, d'accord.
Ils sont plusieurs. Qui me stigmatisent.
Tanguy, c'est drôle.
Tom...
Les booms.
Tom, bonjour. Il n'y a pas de problème.
Bienvenue.
Attends 5 minutes. J'arrive, je m'échauffe.
Vous êtes expert justement en humour, Tom.
Oui, parce que je suis Copy Comics. Et
Merde, on a merci. Ce que j'ai... Ah non, oui, on
okay, pardon. Non, alors Thierry Lhermitte monte pour la première fois seul sur scène. Thierry Lhermitte seul sur scène, on pourrait dire tiens, c'est un one man show. Mais vu que ça parle de la question du pardon face aux impardonnables crimes nazis, le terme de one man show peut-être pas le plus approprié. Voilà. Vous arrivez pas sur scène avec de la musique funk en nous disant, je sais pas si vous avez remarqué, mais les nazis, ils sont toujours bien fringués. Voilà. C'est vrai que non, on peut pas dire one man show seul en scène, c'est mieux. Voilà, Thierry Lhermitte, vous avez un petit truc avec l'Allemagne en ce moment, parce que il y a une info qui circule, ça ressemble à une blague et vous l'avez confirmé a priori il y a pas longtemps. Vous avez dit vouloir adapter Derrick au cinéma.
Il a dit que c'était pas une blague.
Voilà, non, donc alors votre pièce parle du pardon, mais est-ce qu'on peut pardonner à Derrick d'avoir ralenti nos après-midi? C'est vrai, quand t'étais malade, tu restais chez toi à regarder la télé Derrick, c'était un peu la double peine. Après, je dis ça, c'est méchant, on a tous regardé Derrick avec une grippe ou une angine, si ça se trouve. En fait, Derrick, c'est génial. On trouvait ça pourri uniquement parce qu'on avait 42 fièvres. Mais c'est bon pour jeter la pierre à ce pauvre Derrick. Dans toutes les séries, on dit qu'il y a toujours un petit ventre mou au milieu d'une saison. Bon, le problème, c'est que dans Derrick, les temps forts, on les trouvait pas non plus. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Derrick, il fait partie de ces gens qu'on a toujours connus vieux. Comme Georges Pernoud de Thalassa ou Lynn Renault, t'as l'impression qu'ils sont nés à 75 ans et qu'ils ont pas bougé depuis. Mais ça, Derrick, ça a duré 25 ans. Tu peux mélanger tous les épisodes. Tu peux regarder l'épisode 3 de 74 et enchaîner avec l'épisode 27 de 98. Il n'y a pas de différence. Le seul moyen temporel de se repérer, c'est les bagnoles. Ah tiens, il a changé de BM. C'est l'avantage aussi de l'Allemagne. C'est nous, Navarro, il roulait en Citroën XM. Derrick, il était en série 5 BM. Bon, voilà. Alors, François a arrêté de diffuser Derrick en 2013. Pourquoi, Nagui? Trois fois rien.
L'acteur.
On a découvert que dans son passé, l'acteur qui joue Derrick avait été un nazi. Et puis... Bon, je dis pas qu'il faut pardonner, mais il faut voir le bien dans chaque situation. En 25 ans, c'est le seul moment où il s'est passé un truc de surprenant dans cette série. C'est vrai, voilà. Un ancien SS, en 25 ans, Derrick, il a arrêté 800 criminels, et puis il s'est jamais arrêté. Il est pas si fort que ça. Alors, comment il s'est fait griller à sa façon de porter l'imperméable toujours de façon rigide? Je sais pas, à sa façon de faire coucou de loin, de façon assez visible, la main ferme et le bras tendu? Je ne sais pas, en tout cas, on ne saura jamais, quoi qu'il en soit. Bon courage à l'inspecteur Derrick, très pressé de voir ça au cinéma, Thierry, et au Wiedersehen.
Merci.
La bande originale. Nagui sur France Inter.
Et on se retrouve Tom Bila sur scène, toi aussi, c'est un one man show pour le coup, c'est Nommé Son, au théâtre Le République tous les mercredis et les vendredis à 21h30.
Daniel Moin.
À propos de l'adaptation de Derrick, j'ai vu, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?
Non, c'est vrai.
Non, mais qu'il va y avoir des poursuites sur des péniches.
Oui, une poursuite en péniche, oui. C'est bien, non?
C'est génial.
Le problème, c'est que je ne sais pas jusqu'où la vanne va aller.
Non, c'est vrai, c'est en écriture. Je plaisante.
Poursuite en péniche.
Une poursuite en péniche, ouais.
D'accord, mais c'est un film.
Attention, on va se rentrer dedans. Puis un quart d'heure plus tard, ils sont tous
morts. J'ai vu ça.
Le film va durer 4 heures.
Voilà, c'est un film en 2D avec lunettes de vue.
une poursuite en péniche.
Bon, en attendant de dévoiler la vérité ou le canular de cette histoire de Derrick, revenons à Fleur de Soleil. Ça, c'est une réalité au Théâtre Antoine que vous allez, Thierry, toucher du doigt à partir de ce jeudi 16 janvier. Ça sera jusqu'au 29 mars. Donc, au Théâtre Antoine, Fleur de Soleil.
Ouais.
La notion de se dire, c'est pas on peut fleurir une tombe, c'est de dire d'une tombe peut naître une fleur.
Oui, parce que ils disent, que je n'ai pas vérifié, que dans les cimetières militaires allemands, il y a un tournesol qui est planté. Voilà. Et lui, il passe devant en sortant du camp pour aller sur leur lieu de travail, et ça le fait. Il s'imagine que ces fleurs sont voilà, captent les rayons du soleil, et puis comme des miroirs, et puis ensuite conduisent la lumière à l'intérieur des tombes. Et il se dit que les papillons qui se posent sur les fleurs doivent porter des messages d'une tombe à l'autre. Voilà, ça le fait délirer de voir ça, et il se dit que lui, il n'y aura jamais de fleur de soleil qui apportera la lumière sur la fosse commune dans laquelle il sera jeté. Bon, on a mis une bonne ambiance.
Non, mais c'est
la péniche.
Revenons à la péniche.
C'est un moment extrêmement émouvant également quand il le raconte.
Ouais.
Justement, il y a beaucoup de lectures possibles de cette pièce. Évidemment, le sujet du pardon. Peut-on tout pardonner, même l'innommable, même l'inimaginable et les plus grandes horreurs. Mais il y a aussi la question de survie dans laquelle se trouve ce prisonnier. Juif, il y a son rapport avec le camp dans lequel il est, son rapport à l'infirmière, son rapport au cadeau qu'il pourrait faire par rapport à ses camarades.
À qui pose la question, et puis il y en a un qui dit « un de moins ». Voilà, tant mieux, t'as vu un criminel en train de crever, alors où est ton problème ? Enfin voilà, donc, c'est des questions qui se posent. Voilà.
Même ce rapport à la nourriture, quand on lui fait don d'un morceau de pain.
Ouais, il dit, j'ai déjà été confronté à la pitié d'un nazi.
Voilà. Ouais, c'est-à-dire accepter la pitié d'un nazi, qui est l'être qu'on déteste plus. Voilà. Mais c'est intéressant de se dire que ça questionne, en fait. C'est pas...
Il le dit, ouais. Et du coup, ça vient... Il y a un philosophe qui s'appelle Jean Améry, qui a été déporté, survécu, qui s'est suicidé après. Un mec qui était très mauvaise humeur tout le temps dans sa vie. Il est très, très mauvaise. J'ai lu du bouquin de ce mec-là. Et
tu ressentais qu'il était de mauvaise humeur en lisant le bouquin.
C'est un philosophe très très pessimiste. Il a écrit tout un pamphlet sur la solitude de l'intellectuel en camp de concentration. C'est pas une blague.
En même temps, vu ce qu'il a traversé, on peut imaginer que ça peut s'expliquer.
Non, mais il y a des gens qui sont sortis forts et rayonnants. Simone Veil, entre autres, la créature magnifique dedans. Voilà. Et lui, il dit pas de pardon. Il dit non, le pardon, ça m'intéresse pas. Pardonne pas. Quelle importance. La seule chose qui compte, c'est le geste politique que tu as fait en traînant des criminels devant la justice et en rendant les crimes contre l'humanité imprescriptibles.
Ce que faisait Simon Wiesenthal, justement.
Ouais. Il dit c'est ça qui compte. Le reste, qu'est-ce que tu t'encombres la tête si tu veux, pose-toi des questions, mais ça n'a aucune importance.
Mais donc le paradoxe, c'est qu'il est tenu à ce que justice soit faite toute sa vie. Et qu'en même temps, il ait fait ce texte sur le pardon.
Ben oui, parce que c'est des plans différents. Voilà. La justice, il y a un mec qui s'appelle Hans Abbe, qui est un journaliste allemand, qui dit la justice sans pardon, c'est la force pour elle-même, et puis le pardon sans justice, c'est une injustice en soi. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est des plans différents. Voilà. La justice, c'est une chose.
Ouais, bien sûr, la justice n'est
pas la morale.
Bien sûr. Voilà. Fleur de Soleil de Simon Wiesenthal, Thierry Lhermitte porte magistralement ce texte au Théâtre Antoine. Ça sera du 16 janvier au 29 mars. Voici Fanny Ruel.
Salut les vieux.
Ça va, Fanny?
Je voulais vous parler d'un truc avant que vous mouriez. On commence à se connaître un peu. Vous et moi, je me sens de plus en plus intégrée dans l'équipe. Ouais, non, je me sens vraiment de plus en plus intégrée dans l'équipe ce soir. Ouais. Ce matin, Leïla m'a proposé mon premier rail. Donc, je lui ai dit, c'est très gentil, madame.
C'est tôt.
À quelle occasion? Elle m'a dit, on est mardi. Du coup, vu qu'on devient assez proche pour partager nos pailles, je voulais vous parler d'un truc qui m'angoisse un peu. C'est que je ne me sens pas du tout adulte. Alors que voilà, j'ai 25 ans, donc je suis jeune. Quand je suis née, Thierry Lhermitte était déjà has-been. Donc, je suis jeune, certes, mais à 25 ans, on est censé être adulte quand même. J'ai un travail, j'ai un compte en banque, j'ai la capacité physique de tomber enceinte. Et je sais que c'est dur à croire parce que vu ma taille, si un être humain sort de mon corps, ce n'est pas un accouchement, c'est une mue. Mais non, je ne me sens pas adulte, tellement pas. Genre physiologiquement, mon cerveau n'est pas prêt. en fait. Je veux pas effrayer les auditeurs avec toutes mes connaissances en neurosciences. Je me doute que s'ils écoutent l'émission de Nagui, c'est pas pour entendre des choses intelligentes. Mais pour expliquer brièvement comment le cerveau fonctionne, le cerveau d'un être humain, il est piloté par ce qu'on appelle en biologie le grand conseil du cerveau. Donc, un petit groupe de personnes qui prennent des décisions. Sauf que le grand conseil de mon cerveau à moi, il est composé que de prépubères débiles et immatures qui font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils chantent du Joule, ils font l'hélicobite, ça n'a aucun sens. Il y en a un qui est un peu plus futé que les autres, il sait faire ses lacets et tout. Donc, je pensais qu'à ma majorité, il allait prendre le contrôle du grand conseil. Je pensais que le jour de mes 18 ans, il allait faire un putsch, dégager les débilos, et du jour au lendemain, j'allais devenir sérieuse et commencer à fantasmer sur des cocottes le creuset. Sauf que là, j'ai 25 ans, il est toujours pas président du grand conseil, il est à peine genre consultant freelance, il essaye de donner son avis, genre quand j'écris des chroniques, il me dit « Ouais, est-ce qu'on est sûr de vouloir parler d'hélicobite à côté de Thierry Lhermitte alors qu'il vient présenter une pièce sur la Seconde Guerre mondiale ?» Et les débilos, ils font « Ah !» Et puis ils partent en hélicobite. Mais à part ça, personne ne lui demande son avis. Alors, sauf, c'est vrai, dans les situations critiques. Genre, un préservatif qui craque dans un coin du parking de France Inter. Je suis en panique, je suis là « Ah, Guillermo, qu'est-ce qu'on fait ?» Et
dans tes rêves.
Guillermo me répond « Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, là, ça, mon cerveau, ouais, il est en ébullition et les débilos, ils ont besoin du plus futé pour savoir où trouver une aiguille à tricoter. Mais à part ça, non. C'est affreux, je vous jure. J'ai la maturité d'une enfant de 8 ans, mort. C'est vraiment chaud d'être adulte, en fait. C'est chaud d'être adulte. T'es censé prendre les bonnes décisions, mais tu peux jamais être sûr à 100% que tu prends les bonnes décisions. On en parlait l'autre jour avec Nagui. Il me disait à quel point il regrettait d'avoir engagé Jérémy Crédville. Il me disait, oui, déjà que ses blagues sont pas ouf. En plus, il les chante. Donc c'est fou, vraiment. T'es censé être sûr de toi quand t'es adulte. T'es censé savoir ce que tu veux. Et ça, c'est dingue parce que t'es censé savoir ce que tu veux alors que t'es clairement pas terminé en tant que personne. Genre, c'est comme si on te demandait de trouver la solution à un problème dont l'énoncé est incomplet. Si un train part de Bruxelles à 13h30, à quelle heure arrive-t-il ? Mais je ne sais pas, où va-t-il ? À quelle vitesse roule-t-il ? Veut-il réellement être un train ? Ou l'est-il uniquement par pression sociale de sa famille train ? C'est impossible. Je ne sais pas. Moi, je n'ai aucune idée de ce que je veux dans la vie, vraiment. Donc, en attendant de trouver, je vais me faire un rail avec Leïla, puis j'irai acheter une aiguille à tricoter.
Ah, c'est bien, après. Oh non, quelle horreur ! Si j'étais adulte, je serais sûr que c'était deux chroniques en une, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui et la dernière.
Et sinon, on se retrouve tous les lundis soirs au Barbès Comedy Club, Fanny Ruet.
Tiens, puisqu'elle a des problèmes de santé et de cerveau, c'est l'occasion de rappeler que la Fondation pour la Recherche Médicale a besoin de vous. C'est leur nécessité, évidemment, de continuer la recherche, de trouver des solutions, de lutter contre toutes les maladies. Je rappelle le principe de cette Fondation pour la Recherche Médicale, c'est avec les dons que vous faites et la générosité de ces donateurs. Ce sont des médecins qui se réunissent entre eux, c'est un conseil de médecins, et qui décident entre eux, en fonction des projets proposés par différents chercheurs, quel projet, quelle recherche va être plus ou moins aidée.
C'est la clarté. C'est l'excellence.
C'est ça.
L'excellence des projets et tous les chercheurs qu'on rencontre, puisque Nagui et moi, on est tous les deux parrains de la Fondation pour la Recherche Médicale, confirment que la FRM, que j'aime, est extrêmement est fondamentale pour leurs travaux.
Et ce qui est fondamental pour eux, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir chercher. Ça veut donc dire qu'avec un simple SMS, vous l'envoyez au 92 300, vous tapez don, D-O-N, pas de S à la fin, même si vous le faites plusieurs fois, vous envoyez ce message et 10 euros seront prélevés sans même que vous en rendiez compte.
Quand même.
Sur votre facture de... Non, parce que ta facture de téléphone, tu vérifies où passent les 10 euros ?
Non, mais maintenant, et je précise que le 92 300 étant également le code postal de Levallois, c'est mieux. Ne vend pas sur la
Alors, la mairie est indisponible en ce moment, pour des raisons...
Mais...
pas du tout, ça va à la Fondation pour la Recherche Médicale. Non, ce qu'il faut préciser, c'est que non seulement vous envoyez, faites 92-300, vous envoyez don, mais vous recevrez un texto avec est-ce que vous confirmez votre volonté ou pas de faire ce don. Vous pouvez taper sur OK, et vous pouvez également demander à ce qu'il y ait un
reçu fiscal.
Un reçu fiscal, merci. Un reçu fiscal pour pouvoir déduire 60% de ce don et que ça ne vous coûte que 4 euros au final, ce qui est toujours aussi évidemment intéressant, ça te rassure, Daniel.
Et pour donner plus de 10 euros d'un coup d'un seul, c'est sur le site.
Sur le site, sur frm.org.
Parfait.
Ou Nagui à radiofrance.fr. Non, non, non. Il collectera pour vous, déjà l'habitude.
Non. Oh, je me suis encore trompé de musique. Modestie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est d'appuyer n'importe où, n'importe comment? La musique, justement, celle qui a compté dans la vie de Thierry Lhermitte, on va commencer dans les années 50.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Cœur au gorille.
Dans la famille, on écoutait beaucoup Brassens. C'était votre maman, votre papa, que sais-je?
Non, mais j'ai regardé la liste des pour faire ces choix-là. J'ai regardé sur la liste des disques sortis
dans
les années demandées.
Dans les années 50, ouais.
Et j'ai trouvé Cœur au gorille quand même, qui une magnifique chanson. Et puis.
Et vous avez découverte quand justement, quand vous étiez enfant?
Je l'entendais, mais ça faisait un peu marrer. Franchement, Brassens avec la moustache.
Oui, c'est un peu Henri Dess.
Et puis, ouais.
Alors, je suis pas d'accord. Ça faisait
redécouvert après.
Oui, ça faisait marrer aussi parce que les textes aussi étaient rigolos. Enfin, l'idée du gorille qui rattrape le juge. Ouais. On pouvait penser que c'était un sketch avant de voir une espèce de morale.
C'est une fable. Je réalisais pas moi à quel point c'était chouette. Je l'ai vu après. Et puis Maxime Le Forestier les a ressortis de manière magnifique. Adoré.
Et quand on vous connaît comme ça, on imagine qu'enfant vous étiez un pitre, et vraisemblablement
pas du tout,
que vous racontez.
Non, pas du tout. Non, je le suis pas dehors, mais je.
Ah, vous êtes mon camarade, donc on imagine.
Sauf les farces.
Comment ça?
Les farces et attrapes, alors ça, c'était mon truc, ça.
C'est quel genre de farce?
Il vous fallait des accessoires?
Ouais. Ben ouais, ou à la boutique de jouets, les farces et attrapes.
Le coussin péteur, les
pétards. Le sucre sel.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Je connais pas, c'est un sucre, voilà.
En morceaux?
En morceaux, ouais. Sauf que c'est du sel. Donc on le met dans le sucrier, et le matin, sa maman met son café et est au bord de vomir. Ouais. C'est de la bonne blague, ça.
Bien sûr.
Voilà, ouais.
Est-ce que le poil à gratter?
Le poil à gratter, la cigarette explosive.
Qu'est-ce que
c'était? Une petite bûchette, voilà, de 5 mm de long, qu'on cachait dans la cigarette du paquet de son père, qui était donc en train de discuter avec des amis quand il avait de la cigarette, ça explose. C'est de la bonne blague.
Quelques années plus tard, ça a donné la ceinture d'explosif.
1981, vous écoutiez.
Comme un avion sans air.
Ah ouais, Charlie Couture.
J'ai chanté toute la nuit.
Vous avez une image particulière liée à cette chanson?
Non, moi je suis devenu copain avec Charlie Lee Couture, que j'aime beaucoup. Et c'était tellement. C'était une époque de poésie hardie, puisqu'il y avait comme un avion sans ailes, qui est difficile à imaginer. Les fruits sont si beaux qu'on se contente des noyaux. Vous vous souvenez de ça?
C'était qui?
C'était Julien Clerc, ça. C'était.
Ah non, c'est des paroles d'une chanson.
Des paroles d'une chanson de Julien Clerc, ouais. Où les fruits sont si beaux qu'on se contente des noyaux. J'aimais bien cette poésie hardie. Voilà, c'est pour ça. Non, j'adore. C'est une chanson magnifique. Et puis, Charlie Couture, grand artiste.
Ouais, c'est un mec bien. Ouais. Photographe, dessinateur, sculpteur aussi.
Artiste plasticien. En 81, on vous retrouve, Thierry Lhermitte, à l'affiche de L'année prochaine, si tout va bien.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ce film où vous vous êtes dit, après ça, de toute façon, le cinéma ne voudra plus jamais de moi?
Ah non, parce que c'est une année. On démarre le film et puis je m'entends moyennement bien avec le metteur en scène, avec qui je suis très bien entendu par la suite, par ailleurs, Jean-Loubert. Et puis, et c'est un peu le premier film que je fais tout seul, sans mes copains, voilà. Isabella Gianni, qui m'avait aidé à avoir ce rôle, voilà. Et ça se passe, mais super mal. Moi, je suis réfractaire, je suis très mauvais, je joue pas très bien. Je suis un peu.
À votre avis, ça se passe mal de votre.
De mon fait, oui, bien sûr. J'étais pas. Je me sentais.
Quoi, timide. Bon,
voilà, bon. Et donc, un matin, le producteur, Jean-Claude Fleury, m'appelle et me dit: Thierry, il faut qu'on se parle. Là, un peu lâche, je dis: écoute, je suis occupé là, je vais te rappeler.
Je passe sous un tunnel.
Je raccroche.
Non, mais écoute, le portable n'existe pas, tu vois.
Non. Et je. Ça faisait une semaine qu'on tournait, il pouvait très bien me changer. Je me dis: je suis viré, c'est fini. Je ferai du théâtre ou autre chose, j'en sais rien. Donc. Je rappelle, prêt à cette éventualité. Et là, il me dit: mais Thierry, il ne faut pas lâcher, c'est formidable tout ce qu'on fait, machin, etc. Je te jure, il m'a remonté, je le remercie vraiment beaucoup.
Le vrai rôle d'un producteur, en plus.
Ouais, c'était vraiment chouette. Mais vraiment, entre les deux coups de téléphone, je m'étais fait une raison. C'est la vie.
Oui, c'est comme ça. Ouais.
1983-84.
Si ta doudou bien balancée.
Mais que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. Wow. C'est bon pour le moral.
C'est comment?
C'est bon pour le moral.
J'entends pas.
C'est bon pour le moral.
Il est fort, hein.
C'est
il est
bon
fort.
Pour le moral.
C'est bon bon.
C'est bon bon.
Tu l'écoutais dans le bureau en plus ce matin.
Oh là là. Oui, absolument. Oui, voilà, on a découvert les audiences, on a écouté. C'est bon
voilà,
pour
c'est
le moral.
Pour vous. Voilà, c'était pour fêter vos audiences.
Merci Thierry. Merci
puis beaucoup. Mettre un peu de musique gay dans cette radio sinistre.
Alors pourquoi vous choisissez la compagnie Creole pour les
Mais
années
pour ça. Pour ça, pour ça.
Dans les années, c'était quoi, la femme de mon pote, les ripoux,
c'est ouais, ouais, je sais pas, ouais, ça doit être ça, mais voilà, quand on m'a dit, j'ai regardé dans les tiges, c'est la compagnie créole.
On vous a pas demandé, Thierry Lhermitte, on vous a pas demandé de nous donner le hit parade des années de votre vie.
Non, mais j'ai regardé qu'est-ce qui sortait ces années-là, ça m'a fait
mais
plaisir.
Mais de voir ce que vous écoutiez.
Je m'en souviens, mais pas du tout, du tout, du tout, et puis.
Pourtant, vous vous souvenez des paroles de Julien Clerc qui chantait cette mélodie. Avec la fameuse phrase.
Dont les fruits sont si beaux qu'on se contente des noyaux.
Les gens d'ici.
Vous avez une mémoire sélective, hein. Des textes, des chansons, oui. Qu'est-ce que vous écoutiez à ce moment-là? Non.
Qu'est-ce qui se passait bien à l'époque, hein, Julien Clerc.
Vous avez des salauds.
C'est les années 80.
C'est gratuitement gratuit.
Il y a la femme de mon pote de Blier. Il y a les ripoux de Zidi. Il danse encore, c'est parce qu'on n'y arrivera pas. C'est des gros succès.
Non, mais, non, les ripoux, c'est un gros succès, mais la femme de mon pote, pas du tout.
Non, mais les ripoux quand même.
Les ripoux, très gros, ouais.
Et c'est sans la bande.
Oui.
Enfin.
Enfin,
non, sacré duo quand même, formidable.
Avec Noiret, c'est merveilleux. Ouais, c'était d'abord un tournage merveilleux. Claude Zidi, metteur en scène que j'adore, je fais 4 films avec lui, également avec Philippe Noiret, avec qui on est devenu amis instantanément. Et,
ça se refuse pas à des réalisateurs comme ça et des distributions comme ça. C'est-à-dire que vous étiez quand même super bien avec toute la bande du Splendide, mais.
Ouais. Non, ça se refuse pas, mais j'en étais prétentieux à cette époque-là.
C'est-à-dire
si on prenait tout ça de haut un petit peu, oui, Zidi, le gros succès comme ça, oui, je vais voir. Ouais, ouais.
Ah ouais.
Oui. Mais non, j'étais épaté, émerveillé, j'ai appris et j'ai adoré faire ce film. Mmh.
En 2007, tenez-vous bien, Thierry Lhermitte, écoutez.
Moi j'aurais dit subissait.
Enfin une référence que j'ai. Prenez la taupe.
Alors voilà. Alors, pour tout vous dire, voilà, je regarde la liste des trucs. Oh, je n'ai jamais entendu parler de René Latope.
Ah ben voilà, manque de culture.
Et ce câlin m'a intrigué. Je me dis, mais c'est une occasion de l'écouter chez Nagui. Donc, on va dire ça. Voilà.
Vous êtes envoyé par qui pour pourrir? C'est Nagui qui vous a demandé de venir pourrir l'émission.
Je ne connais pas. Alors, puisque c'est ta génération, est-ce qu'on peut m'expliquer un peu ce que c'est que René Latope? Je ne connais pas du tout.
Je pense que c'est le Crazy Frog de sa génération, en fait.
Il ne sait pas ce que c'est Crazy Frog non plus.
Non, je ne sais pas. Moi, j'ai juste le souvenir des pubs télécharge la sonnerie René Lataupe en envoyant.
Mais vous connaissez, vous?
On connaît, et puis les paroles, paroles sont extrêmement
bien écrites,
choquantes. Non.
Ah bon dit,
oui, si t'es gros, t'as rien à faire ici.
C'était écrit par Julien Clerc.
Non, pas du tout. Non, c'est vrai, c'est Julien Clerc. Il y a une espèce de grossophobie dans cette chanson.
Ah bon?
Oui, absolument.
Arrêtez le politiquement correct, Nagui.
René
Lataupe, c'est un succès, c'est mérité. Voilà. Oh, une fatigue avec son mimétisme.
Demandez ce que c'était, je suis intrigué. Alors, Crazy Frog, c'était ça, par exemple.
Ah ouais.
Nagui est déchaîné.
Ah, ça, je connais ça. Ouais.
Okay. Bienvenue dans la plus grande discothèque du monde. Toi aussi, tu veux faire l'école de la radio, il faut que tu parles comme ça.
Ça aussi, vous êtes passé à côté.
Je peux pas blairer ça.
On enlève.
Le snobisme.
Il se passait quoi en 2007?
Je sais pas du coup.
C'est plus maintenant.
Le bateau, je crois.
Non, il était au théâtre. C'est le théâtre, c'est les premières années, les premières représentations en 2007. Sans membre du Splendide, là aussi. C'était Biographie sans Antoinette, c'était ensuite Grand Écart, Inconnu à cette adresse, toutes ces pièces-là qui sont intervenues après. Les dernières pièces du Splendide, c'est L'ex-femme de ma vie de Josiane Balasco. Il y a eu un moment sans théâtre. Parce que
je cinéma beaucoup, puis il y a un producteur qui m'a dit est-ce que tu veux jouer au théâtre? J'ai dit non. Il dit, mais si tu voulais jouer au théâtre, qu'est-ce que tu voudrais jouer? J'ai cité cette pièce de Max Frisch qui s'appelle Biographie sans Antoinette, que j'avais vu jouer au Théâtre de la Colline avec Berléand, Elmosnino et Emmanuel DeVos. Ouais. C'était fantastique. Ça m'a vraiment marqué, cette pièce. Je me dis, ça, je veux bien. Du coup, je me suis trouvé embarqué, vous voyez.
J'ai la sensation que les choix ne sont pas les mêmes entre le théâtre et le cinéma. Si je reprends
Tous les soirs. Tous les soirs, c'est sûr. Non, mais il faut aller faire un truc ou bien il y a quelque chose à dire, ou bien il y a vraiment de quoi se marrer très fort. Le cinéma, on le joue une fois. C'est pas qu'on est moins difficile, mais c'est pas pareil d'aller se marrer, à se déguiser, se mettre des moustaches, une perruque pendant une journée, et tous les soirs à défendre un truc. Non, c'est pas pareil.
Inconnu à cette adresse, vous l'avez joué au Théâtre Antoine, vous allez retrouver là le Théâtre Antoine. Il y avait aussi ce sujet, cette toile de fond de l'antisémitisme et de la correspondance, c'est ça.
Oui, mais là, il y avait de la dramaturgie, c'est un chef-d'œuvre épistolaire, il y a de la dramaturgie. Il n'y avait pas vraiment de questions posées, là. Là, il y avait une vengeance, une lâcheté et une vengeance. Et puis,
C'était un simple clin d'œil que je voulais faire au Théâtre Antoine, qui est un très beau théâtre.
Tout à fait. Mais dans lequel il y a des thèmes qui sont effectivement un peu forts.
Nous recevons pour parler, pour évoquer encore une fois Fleur de Soleil de Simon Wiesenthal, que Thierry Lhermitte joue au Théâtre Antoine à partir du 16 janvier prochain. Christian Ingrao, bonjour Christian.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire du nazisme, l'auteur de nombreux livres sur le sujet, dont le prochain qui sortira, d'ailleurs vous le savez, c'est en mars ?
En mars ou en avril, je crois. Oui.
Le soleil noir du paroxysme nazisme, violence de guerre, temps présent. C'est aux éditions Odile Jacob. Pour resituer cette histoire, tout à l'heure on a précisé que c'était une histoire vraie de Simon Wiesenthal. Qui est-il ? Simon Wiesenthal, c'est vraiment une personne qui a coursé les nazis dans le monde entier.
Alors c'est une figure, Simon Wiesenthal, avec sa vie, on fait toute l'histoire du siècle. Il est né en 1908. Pendant la Première Guerre mondiale, il est dans un coin de l'Ukraine qui est assez délirant, parce qu'il y a des Ukrainiens, des Polonais, des catholiques, etc. Il est germanophone. Son père meurt juste au début de la Première Guerre mondiale. Bref. Ça finit en 1939. Il est d'abord occupé par les Soviétiques. Ensuite, c'est les Allemands qui occupent. Il exerce une profession technique. Donc, il est pas tué tout de suite. On l'envoie dans un camp de travail. C'est dans ce camp de travail que, visiblement, il a eu l'occasion d'être extrait et qu'il a eu cet épisode dans un hôpital.
L'épisode de la pièce de théâtre.
Ouais, l'épisode de la pièce de théâtre. Dans un hôpital avec ce jeune ESS. Il arrive à s'évader. Il arrive à s'évader du camp en 1943. Il est repris à l'été 1944. Il n'est pas fusillé. Il fait toutes les marches de la mort. Et il est libéré à Mauthausen, en Autriche, en 1945. Il travaille alors pour l'OSS et il commence cette activité de chasse et de renseignement sur les nazis. Il a mis en place cette liste dont on parlait, c'est 100 personnes qu'il a essayé de faire chasser. Et puis, petit à petit, il a monté des centres de recherche qui faisaient un travail de documentation pour essayer de pousser, de faire du lobbying pour qu'on passe ces gens en jugement.
Et grâce à lui, beaucoup de nazis ont pu être arrêtés ?
Alors, il a prétendu avoir fait arrêter 800 nazis, on n'a pas de preuve de ça. Il n'en reste pas moins qu'il a, fait.
Enfin, quel intérêt d'être mytho sur le nombre de nazis ?
Tout le problème est là, parce qu'il a été souvent accusé d'être mytho, mais il faut comprendre qu'il y a un truc de structure derrière ça. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une couverture médiatique pour faire pression sur les gouvernements, pour arriver à faire accepter l'idée qu'il faut continuer à les chasser. Et donc, il y a des moments où il exagère peut-être un petit peu. Mais son aide a été effective. Il y a vraiment des gens qui ont été arrêtés grâce à lui, il a aidé et fait pression sur un certain nombre de gouvernements pour le faire, et ça a fonctionné.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des chasseurs de nazis ?
Bien sûr qu'il y a encore des chasseurs de nazis, quelques-uns, oui.
Dit-il avec un sourire.
Bien sûr que je dis ça avec des sourires. Parce que au fond, si vous regardez la façon dont les historiens ont travaillé depuis 1945, le progrès historien est indissociable de la chasse aux nazis. Mm-hmm. C'est-à-dire que même à l'heure actuelle, les gens qui ont mon profil, 45-50 balais, les Allemands, ils ont travaillé pour l'office des crimes de guerre du Canada et de l'Australie, et ils ont été travaillés dans les archives nazies pour choper des collaborateurs ukrainiens, etc., etc. Et donc, toute la vague d'innovation qui a eu lieu depuis les années 90, elle est liée à la chasse aux nazis.
On n'entend pas parler de procès de nazis récemment arrêtés et traînés en justice.
Par exemple, en Allemagne, il reste une dizaine d'affaires qui sont en cours, mais d'abord c'est super lent, parce qu'on a une justice qui est démocratique, et donc quand des experts disent que tel vieillard, parce que ces gens
sont vieux,
sont extrêmement vieux maintenant, le jeune homme de 22 22 ans. S'il n'était pas mort à Lemberg en 1942, il aurait quel âge à l'heure actuelle? Eh ben, il aurait 94 ans. Mmh. Et à 94 ans, la justice démocratique, elle décide qu'on souvent, on ne peut pas supporter un procès. Et donc, on ne les entende pas.
Pourquoi les chasseurs de nazis, maintenant, étant donné l'âge de ces nazis.
C'est des gens. Alors, moi, les gens que je connais qui font ça sont des gens qui travaillent sur commande. C'est-à-dire que c'est un procureur allemand ou des gendarmes italiens qui leur commandent tel travail ou tel travail.
Mais bientôt, ils n'ont plus de travail.
Ne vous en faites pas, ils savent faire d'autres choses.
Oui.
Est-ce que vous voulez. Vous répondez à la question sur le pardon, justement? Est-ce que.
Non, moi, je suis historien, pas juge. Non, je suis désolé, ça c'est le problème, réponse de juriste.
Très bien.
C'est pas pour moi.
Mais engagez-vous un petit peu. Là, je viens sur Inter partager la gloire à tous ces auditeurs. Modestie, bien sûr.
Il y a un très beau texte de Heinrich Heine dans lequel, c'est dommage, j'aurais dû l'amener, dans lequel il dit, vous savez, moi j'ai des goûts très simples, ce que j'aime c'est le lait, le beurre, un bon lit, etc. Et un jardin avec juste au bord des arbres, etc. Et si Dieu veut vraiment être sympa avec moi, s'il veut vraiment m'apporter la félicité, qu'il fasse que certains de mes ennemis soient pendus à cet arbre. Car il faut pardonner à son ennemi, mais jamais avant de le voir pendu.
Voilà un message d'optimisme. Voilà,
Christian Grao, historien, directeur de recherche au CNRS, Le soleil noir du paroxysme, Nazisme, les violences de guerre, temps présent, c'est à paraître en mars prochain aux éditions Odile Jabog. À bientôt, on vous kiffe dans cette émission, vous le savez. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous allez nous parler des bons sondages de France Inter, on avait dit modeste.
Oui, de temps en temps, alors on est heureux, ça dure un quart d'heure, puis on réalise de nouveau l'inanité de nos existences et donc on pleure. En tout cas moi, parce que vous avez l'air bien psychologiquement. En fait, je vais vous expliquer à quel point ce qui apparaît comme étant un succès est en réalité un échec collectif terrible. Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, rien.
Ah, ça fait ça quand on gagne?
Oui, non,
ah, vaut mieux perdre alors. Quelle horreur.
La bande originale, au retour avec Léa Kadrounadi, Fanny Ruet, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Tom Villa,
bonjour
Tanguy Passureau, et notre invité Thierry Lhermitte. Au Théâtre Antoine, à partir du 16 janvier prochain, dans deux jours, deux dodos et il sera sur scène, seul sur scène, pour interpréter Fleur de Soleil. D'après l'œuvre de Simon Wiesenthal, mise en scène par Steve Suissa, c'est au Théâtre Antoine à Paris. L'adaptation du texte a été faite par Antoine Maury et Daniel Cohen. Vous avez déjà joué cette pièce. Est-ce qu'il y a une évolution justement entre les quelques fois où vous avez joué en tournée en province ou à l'étranger cette pièce et ce qui va se passer?
Oui, j'espère que ça s'améliore quand même au fil des représentations. Et puis, oui, parce que, en gros, dans cette pièce, il y a Simon Wiesenthal aujourd'hui, qui est mort, qui raconte cette histoire-là. Et puis, il y a Simon Wiesenthal au moment où il vit l'événement. Ouais. Et puis, il y a le SS qui confesse son crime. Donc, il y a trois plans de narration. Et c'est toute une articulation de dire quand c'est l'un, quand c'est l'autre. Alors, quand c'est le SS, c'est clair. Hein. Mais quand c'est Wiesenthal... Mm-hmm. dans la situation, et quand c'est Wiesenthal qui fait des réflexions, des commentaires à propos de cette situation.
Il y a des lettres qui sont lues par des comédiennes, des comédiens sur scène, justement sur cette notion de peut-on tout pardonner ou pas, puisque c'est la question que se pose ce rescapé des camps d'extermination, des camps nazis, en se disant est-ce que j'aurais dû ou pas, au nom du peuple juif, donner le pardon à ce SS mourant, qui avait que quelques heures encore à vivre. Pourquoi toutes les lettres sont lues par des comédiens, et pourquoi vous en lisez deux en particulier?
Bah parce que moi je suis dans le récit de Simon Wiesenthal, et puis donc le récit est interrompu, enfin chaque morceau du récit est ponctué par les lettres, et puis les dernières, dont celle qui nous tient à cœur et qui représente ce qu'on pense sur le sujet, c'est moi qui les lis. Ouais.
Oui, mais pourquoi? Pour lui donner plus de poids,
pour pas interrompre le récit de Wiesenthal. Voilà,
qu'on est dans la peau de Wiesenthal qui lit la lettre.
Moi, je suis dans la peau de Wiesenthal qui raconte, ce moment, et puis les moments qu'il y a eu après dans lesquels il s'est posé la question quand il est allé voir la mère de ce SS. Donc,
tout d'un coup.
En ayant gardé en mémoire, il faut le préciser, en ayant gardé en mémoire l'adresse de justement des objets, objets de tout ce qui appartenait à ce SS qui lui était remis en disant voilà.
L'infirmière, elle dit il m'a fait promettre de vous donner tout ce qu'il possédait. Et lui dit non, envoyez ça à sa mère, regardez, vous avez l'adresse dessus, Stuttgart, Markstrasse. Voilà, comme il lui dit.
Et il le retient. Il a retenu. Et ça, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que la demande du pardon à quelques heures de mourir, on refasse un peu comme dans le film de Claude Sautet, Les choses de la vie, comme ça, on se refait le film de sa vie et on se dit j'ai fait ça, j'ai besoin de demander le pardon pour mourir en paix. Et puis, d'un coup, de transformer ça en je fais le don de ce que j'ai à une personne d'une manière très matérielle.
Je ne sais pas pourquoi il voulait lui donner ça, j'en sais rien. En tout cas, le fait que Simon Wiesenthal ensuite aille voir sa mère, c'est parce que le gamin, il lui avait raconté qu'il voulait surtout pas que sa mère sache ce qu'il avait fait. Que sa mère, c'était un bon fils. Et que jamais elle aurait pu penser qu'il fasse des horreurs pareilles. Et donc, ça l'a interpellé aussi, de se dire, mais comment ce gamin a fait ses horreurs? Comment ce bon gamin que sa mère adorait, qui adorait sa mère, comment il a pu se lancer là-dedans? Ça le travaille, ça l'obsède, le mal, voilà. Comment on devient un criminel.
Ouais, moi aussi, je me suis posé la question sur le paquet. Pourquoi l'adresse de la mère figure-t-elle sur le paquet alors que...
Au début, c'est toutes les affaires. Il va mourir. On envoie les affaires à sa mère. Et puis le mec, il dit non. Donnez-le à ce type-là.
Peut-on tout pardonner? Ça s'appelle Fleur de Soleil, exactement, au Théâtre Antoine, joué par Thierry Lhermitte, cette pièce de Simon Wiesenthal. 40 représentations exceptionnelles à ne pas manquer, donc à partir de jeudi prochain. Voici Monsieur Tanguy. Dégaine de Tanguy. Tanguy, vous avez l'air triste, c'est bizarre, c'est un jour de fête pourtant.
Non, comme d'habitude, mais cette fois c'est pire, c'est un jour noir pour la France. J'ai mal à mon hexagone, et je pense au père fondateur de cette nation, Clovis, Napoléon, Alain Duhamel. Les malheureux auraient honte de nous s'ils bougeaient encore. J'ai envie de gerber. Je suis comme François Damien si un ami, pour lui faire une blague, lui avait servi une bière, mais sans alcool. Oui, depuis ce matin, France Inter, ça fanfaronne. Dans les couloirs, on entend des types dire « Bravo mon loup pour tes audiences », d'autres répondent « Merci amour, mais c'est rien à côté des tiennes, elles sont énormes ». D'autres ajoutent « C'est vrai, elles sont grosses ». Car, explication pour les éditeurs de droite qui ne sont avec nous que de midi 10 à midi 15, Inter a explosé ses scores d'audience. On est écouté par les mémés, les jeunes acébums, les chiens, les tapis de sol et même les sourds. La matinale de Demorand et Salamé a pris 500 000 auditeurs. La bande originale cartonne. Monsieur Lhermitte, ne dites pas de conneries parce que le pays entier vous entend. À chaque fois qu'on dit Théâtre Antoine, vous vendez 4000 billets. Dans 10 jours, vous êtes au Stade de France et Rihanna vous envoie des sextos de ses seins afin que vous la preniez en première partie. Moi qui pensais me casser en fin de saison derrière, j'ai bien fait de rester, de le prendre, ce chèque de la direction. Le même que Kylian Mbappé, avec plein de zéros. Bon, malheureusement, sans chiffres devant. Mais parce que je suis plus écouté que la voix de la SNCF quand Gare du Nord, elle explique qu'en raison d'un mouvement social, tu peux te brosser pour aller à Boulogne-sur-Mer. Donc là, vous vous dites, mais Pastureau, par conséquent, oui, parce que vous exprimez très bien, devrait être content d'être leader. Qu'a-t-il donc, ce fragile? Il est plus névrosé que Loana et Jim Morrison réunis. Mais soyons honnêtes, avec la grève, il n'y avait quasiment pas d'émission. Ce qui a marché, c'est Eddy de Pretto, Clara Luciani, c'est le retour triomphal de la frange de cheveux. Dire que Jacques de Sang est mort avant d'avoir vu ça. Mais parce qu'on a passé leur chanson, les gens nous haïssent. Dès qu'on se tait, ils viennent, c'est humiliant. Nous sommes comme un vieil oncle pour les auditeurs. Ils nous supportent, mais si le dimanche midi on a d'un plein la bouche et qu'on peut plus dire du mal des Noirs, ils préfèrent. Cette place de numéro 1 est donc un échec collectif. Le nôtre, c'est la grosse lose. Parce qu'on s'est fait éclater par une playlist. Ça revient un samedi soir à voir sa femme sortir un canard vibrant, ou un koala à pile si elle est solidaire de l'Australie, et à l'entendre nous dire, va regarder, on n'est pas couché bébé, j'ai plus besoin de toi. Et au-delà de ça, le message envoyé est calamiteux. On réalise ce matin que moins on bosse, plus ça marche. Nagui, venez à 12h25, dites bonjour, c'est Nagui, au revoir, c'était Nagui. Je rappelle que Thierry Lhermitte est au Théâtre Antoine, elle est 4000 places de plus. Vous serez à 5 millions au prochain sondage. Le français aime les glandeurs. Regardez Goldman, on le voit moins que la cuisse de Diams. Résultat, il est l'artiste préféré des Français. L'autre, c'est Sophie Marceau qui passe la moitié de sa vie à fumer des spliffs dans ses water. C'est la fin de la méritocratie. Je pense à Yves Calvi de RTL qui s'élevait chaque matin à 6h50 pour animer sa matinale de 7h et qui prend quoi ? 0,1 point. Ce n'est pas normal. France Inter a coulé la France.
France. J'ai mal à ma redevance.
Ça veut dire, selon vous, que la valeur du travail est mourante?
Oui, mais j'irai plus loin, c'est la fin de notre civilisation. Hein, toutes ces années passées à évangéliser des autochtones, à produire de l'acier, à sortir les doigts du bassin, pour finir par constater qu'il suffit de glander pour triompher, c'est amoral. Émile Zola, dans Germinal, il n'a pas décrit la vie de Gonze en train de jouer à la Switch, tandis que le charbon sortait tout seul sur des wagonnets magiques. Avant, ça taffait. Il n'y a qu'ici, à Radio France, que sans bosser, on y arrive. C'est pas un hasard si en juin 40, De Gaulle a fait de la radio en Angleterre. C'est parce qu'il avait envie de se confronter à un véritable défi professionnel. Les jeunes qui nous écoutent parce que la radio de leur papy s'est cassée et est restée bloquée sur France Inter. Quel message est-ce qu'on leur donne qu'en n'en foutant pas une rame, on est au top? 3 ans ici et j'ai déjà l'impression d'être un vieux chanteur français qui sort un album de duo avec la jeune génération juste pour payer sa taxe foncière. Et si on y réfléchit, les présidents, c'est pareil. Au pouvoir, ils sont aimés par 1% des gens. Les autres rêvent de les découper et les faire à la plancha. Une fois partis de l'Elysée, ils vendent 600 000 exemplaires de leur mémoire. Or, la plupart n'ont pas œuvré suffisamment pour avoir des mémoires. François Hollande, au vu de son mandat, si dans ses souvenirs il y a déjà celui du digicode de la baraque, c'est énorme. Donc, conclusion, dans ce pays de gens foutre, vous voulez connaître le succès? Ne faites rien, taisez-vous, soyez immobile, tel le visage de Meg Ryan. Et ce sera le carton. Moi, sur scène, je prends une chaise, je me pose, je dis rien. Le public se dit, ça c'est un mec d'Inter, on reconnaît la couleur dentaire. C'est un triomphe. Fabrice Luchini, pour la même standing ovation, est obligé de se taper 4h30 de lecture de Céline. Ce succès d'audience de France Inter est donc le dernier clou sur le cercueil du pays. Appelez Eddy de Préto, filez-lui mes droits d'auteur. Lui, au moins, il travaille. C'est Polly le petit poney qui gigote dans une boucherie chevaline où tous les autres seraient des steaks. C'est une triste journée pour le service public. Pour sauver le pays, écoutons tous RMC. J'ai mal à ma redevance, j'ai mal à ma France, j'ai mal partout.
Merci. La bande originale. Ah bah, France
Inter. Et on te retrouve Tanguy à Enghien-les-Bains, ce sera le 7 février, c'est au casino. Bon,
évidemment, c'est extrêmement drôle, mais c'est faux, parce que d'abord, le sondage a eu lieu sur plusieurs mois, et qu'il y a eu, en effet, la grève. Le reste du temps, c'était des vacances et des rodifs. Donc t'exagères beaucoup.
Ouais, on analyse un peu les chiffres.
Allez, question. Quoi? Question sur ce qui se passe, par exemple, avec My Wolf, My Way, Excalibur, Loukoum, Cybèle, Ouba, Fripouille, Bebop, Autuche.
Sont vos enfants?
Ninja. Qui sont-ils?
Les chiens.
Des personnages, des héros d'une saga?
Les chiens, chiens qui a actuellement Michel Drucker chez lui.
Non.
Non.
À quelqu'un, une star qui a des chiens qui s'appellent comme ça?
Ouais. Non.
Sur les héros d'un prochain film.
Des Lego Ninja. Non, non, c'est une triste nouvelle.
Ah bon? Ouais. Ah ben c'est des animaux morts en Australie.
Alors c'est c'était les acteurs
chiens qui ont été décédés, qui sont brûlés dans.
Exactement.
Voilà, je l'ai pas, mais c'est ça.
Exactement, c'est ça.
Pas comme ça, je sais pas.
Non, c'était des chiens qui sont.
Des chiens qui ont joué.
Des chiens acteurs.
Des chiens qui ont péri dans un incendie.
Qui ont joué, notamment dans le dernier film de Clovis Cornillac, Les Vétos.
Les Vétos, ouais.
Qui est encore à l'affiche d'ailleurs, ce film que je vous encourage à voir, qui viennent de mourir dans l'incendie d'un foyer d'accueil de l'entreprise Animal Contact. On dit souvent d'ailleurs, on est évidemment choqué, déçu et triste pour cette information, mais pour en revenir sur le tournage avec des animaux, on dit souvent que c'est extrêmement difficile de tourner avec des animaux. Ça a été
On se met au diapason des animaux qui ne sont pas toujours enthousiastes pour recommencer 15 fois les prises.
Comme certains acteurs.
Voilà, il y en a aussi.
Patrick Kinsey, par exemple.
Donc, c'est plus difficile.
Quelle est la particularité du film d'horreur The Drudge qui vient de sortir aux États-Unis?
Il est interdit à au moins de 25 ans.
50 ans,
je sais pas.
Au moins de quoi?
25 ans,
non.
Je sais pas.
Il est nul.
Exactement.
Ah bon?
Il vient d'obtenir la pire note des spectateurs en sortie de salle. Un truc qui n'existe pas, le F. La critique la pire, c'est-à-dire... Mais il va devenir culte, évidemment, étant le pire film.
Comme l'attaque des tamatueuses.
Oui, ou les serpents dans l'avion. Là.
Les notes de prescription, des spectateurs à la sortie des théâtres, est-ce que vous y êtes sensible? Est-ce que vous allez voir sur Internet?
Non, je ne vais pas regarder, non, mais...
Les critiques, quel rapport vous avez à la critique en général?
Rien, ni les bonnes ni les mauvaises, j'en ai aucune.
Sincèrement?
Ouais, sincèrement, ouais.
Et pourtant, lors d'une interview, par exemple, lorsque vous êtes face à un journaliste, vous ressentez bien s'il y a de l'empathie ou de l'agressivité de sa part.
Ça on est obligé de faire avec, mais non, je lis aucune, ni les bonnes ni les mauvaises.
C'est-à-dire, vous avez le journal dans les mains.
De toute façon, je saute les pages culture des journaux.
Et donc, vous lisez rien d'autre, d'accord?
Ouais. Ah, ouais. Ah ben ça, systématiquement, oui.
C'est pour ça qu'il connaît pas Crazy Frog.
Et lorsque...
Ouais, voilà, exactement.
Ouais, mais ils s'en portent bien, je te rassure. Ouais. Est-ce que lorsque vous avez eu une mauvaise expérience avec un journaliste, si 2-3 ans après, il redemande une interview...
Bon, il est décédé entre-temps.
Est-ce que...
Ah bah ça vous fait un peu comme un ami, alors.
La notion du pardon est illustrée, là. Très bien.
Non, bah, ouais. Moi, je vais te dire après ce qui se passe. Ouais. Mais est-ce que vous y retournez ou pas à l'interview?
Si ça a été vraiment un fake, non, j'essaie d'éviter, mais encore une fois, sur le pardon, c'est que j'oublie. Je me dis, celui-là, je crois que je peux pas le blairer, mais je ne sais plus pourquoi.
Voilà. Dans le doute,
en tout cas, merci d'être venu ce matin.
James Cameron tient en haleine ses fans sur les réseaux sociaux. À quel sujet?
Avatar 2 et 3.
Ouais, exactement. Avatar 2, qui devrait exister, voir le jour. Est-ce que vous êtes fan des sagas, je sais pas, Star Wars, des séries?
J'ai adoré les premiers.
Les trois premiers.
Et puis après, j'ai un peu laissé tomber.
Préquel, vous n'êtes pas allé sur 1, 2, 3,
non, j'en ai vu, je crois que je suis allé une fois, et puis que ça m'a un peu dégoûté, donc j'ai plus vu. Et puis.
Et sur les séries, sur les
séries, ouais. Oui,
vous êtes accro à quoi
ouais.
en ce moment
Je termine Succession.
Ah ouais, c'est vachement bien.
Ouais, c'est-à-dire, c'est quand même c'est spécial, parce que c'est abominable, quoi. C'est que des gens abominables, ou des idiots, ou des monstres. Et,
c'est un mélange entre écrit. Entre Game of Thrones et.
Mais super bien écrit.
Et Murdoch, vraiment... quoi, c'est ça. C'est-à-dire c'est...
Non, mais vraiment, la qualité de l'écriture, comment les psychologies sont originales, fouillées et tout, ça vaut le coup rien que pour ça, voilà.
Et être dans une série comme ça, portée par Apple, Amazon, Netflix, j'en oublie sûrement d'autres.
Bon, Derrick.
Derrick, oui.
Non, c'est pas une série. C'est pas une série.
Là, ça sera peut-être, on ne sait pas. Non, mais de toute façon, il n'y a que la qualité du texte qui compte. Le reste, que ce soit sur X ou Y.
Donc, ce qui manque, à votre avis, ce sont les auteurs? C'est l'écriture qui fait tout.
Les auteurs, ils sont là, mais qu'est-ce qu'on leur demande? Voilà. Qui est-ce qui est là pour dire c'est pas assez fouillé, ou qui dit plutôt le contraire, oh non, c'est trop compliqué, là les gens vont pas suivre. Là. C'est ça qu'on entend plutôt dans les
Donc,
décideurs.
Il y a des auteurs, mais ce sont les décideurs qui ne font pas les bons choix.
Il y a beaucoup de décideurs qui n'aiment pas la complication, oui, qui préfèrent les choses simples et qui se mettent à la place du public, à mon avis, par une manière erronée, en disant ils vont pas comprendre.
Ça sent un tout petit peu le vécu, ça vous êtes déjà.
Oui, c'est ça le vécu, oui.
Vous êtes déjà retrouvé avec, en portant un projet, soit en tant qu'auteur ou producteur,
ou même en tant qu'acteur, dans lequel on fait des remarques, non, mais c'est trop subtil, non.
Les gens sont bêtes, le téléspectateur
ne veut pas ça.
Non, oui. Voilà, exactement.
Les Français ne veulent pas ça.
Donc, bon, voilà.
C'est bien la généralité.
Donc, du coup, quand il y a beaucoup de monde, comme dans un gros marché, comme les séries américaines ou anglaises, qui ont un marché gigantesque par rapport au petit marché francophone, même s'il y a des gens qui pensent la même chose, qu'il n'y a pas que des gens intelligents dans les décideurs américains, mais du coup, il y a une niche pour il y a assez de monde qui aime la subtilité pour pouvoir faire une des séries un peu complexes.
D'accord. Il y en a une que je vous recommande, qui s'appelle Morning Show, qui est sur l'émission télé et radio. Tu l'as vu, Fanny Ouellet?
Je ne l'ai pas encore vu, mais Steve Carell, Jennifer Aniston, et ce thème-là, ça a l'air incroyable.
Voilà. Et dans les séries françaises, Mytho.
Apple.
Avec Marina Hans.
Mytho.
Ouais. Sur Arte. Voilà.
On les a reçus pour celle-ci.
Ça y va.
Exactement. Ça y va. Ça y allait. Mais bon, il s'accroche. C'est Daniel Morin, il est toujours là.
Oh, l'accueil. Bon, je crois que maintenant, c'est hyper clair. Tanguy, on a parlé d'une voix émue, à mi-chemin entre le chagrin et la colère. Les chiffres d'audience sont affolants, tellement affolants que... Ça en devient étrange. Oui, très étrange. Autant de gens qui écoutent France Inter. Pourquoi? J'ai appris par exemple qu'ils étaient des millions à se lever à 6h57 pour se délecter du fantastique papier qui est servi à cette heure-là.
Par qui?
Mais ils pourraient très bien l'écouter en podcast à une heure décente, genre 10h.
Non.
Autre exemple, la BO, bande originale. Jamais autant de personnes ne se sont réunies autour de leur radio entre 11h et 12h30. Jamais. On les croirait possédés. Eh bien, après avoir analysé le dossier, j'ai la réponse. Oui, tout ça, c'est la faute de Nagui, le king des fortes audiences. Oui, Nagui, considéré par la concurrence comme la 11e plaie d'Égypte. Vous avez tous remarqué que chaque fois que Nagui se pointe sur un projet, des millions de téléspectateurs ou d'auditeurs le regardent ou l'écoutent. N'oubliez pas les paroles. Émission à la con. On est d'accord. Concept à la con. C'est l'évidence. Eh ben, ça cartonne. Tout le monde veut prendre sa place. Aucun intérêt. C'est navrant. Les candidats sont tous moches. C'en est gênant. Eh ben, ça cartonne. Taratata. Approximatif, et c'est rien de le dire. Hein. Musicalement irritant, ça en devient drôle. Eh ben, ça cartonne. Pourquoi ? Aucune raison. Aucune raison que la science, la logique ou même le bon goût ne peuvent apporter. Oui, Leïla, ça s'écrit. P-R-U-T-T-T-T. Ah, c'est un peu les coulisses que je vous fais vivre. Voilà.
C'est vrai.
Un peu les coulisses. Hein.
C'est vrai.
Alors, aucune explication, si ce n'est que Nagui manipule les foules au travers des ondes. Mais au juste, qui est Nagui ?
C'est ça.
Nagui, homme de petite taille, originaire du pays des pyramides, est un animateur plurimédia au succès malgré une laideur prononcée, une culture générale risible et une élocution lamentable. Quel est son secret ? L'année de ses 12 ans, Nagui est hospitalisé au Caire pour une très vilaine syphilis purulente. Il est à deux doigts de la mort quand il a une apparition. C'est Anubis. Fils d'Isis et Osiris. Anubis, le dieu de la mort à tête de chien, qui dit à Nagui, écoute-moi bien, petit animal au nez plus grand que le sexe. Tu es trop laid pour intégrer mon royaume. Je veux que tu vives longtemps et pour ça, je te donne le pouvoir de la win. Tout ce que tu entreprendras, tu le réussiras.
Win.
Et très 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 tard, tu mourras.
Il a écrit comment win, W-O-U-I-N.
Avec plein de haine.
Amen. Depuis, tout ce que touche Nagui se transforme en succès, une bénédiction pour ceux qui sont à ses côtés, une malédiction pour ceux qui lui sont opposés. C'est ça le secret des audiences de fous que réalise la bande originale et par contagion le reste de l'antenne de France Inter. La France entière est victime de la prophétie d'Anubis. À demain.
Merci d'ailleurs.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Tout était vrai, y compris la taille du nez. Au théâtre Antoine, Thierry Lhermitte avec Fleur de Soleil de Simon Wiesenthal. Qu'est-ce que tu as retenu de la visite de Thierry Lhermitte et de la lecture de ce texte, Leïla ?
Moi, ça m'a beaucoup intrigué sur justement le questionnement sur ce pardon, la justice des hommes, parce que ça, je trouve que ça transcende pas mal de disciplines. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper beau, hyper touchant.
Fanny Ruet.
Tout pareil que Leïla, j'ai très envie de le lire, d'aller le voir. Et oui, le mélange entre les lettres et la réflexion personnelle a l'air extrêmement intéressant.
Tom Villa.
Est-ce qu'on peut pardonner à Thierry Lhermitte de nous avoir fait écouter René La Taupe ? Ça, je ne sais pas encore. Il nous a pourri la journée, ça, c'est sûr.
Ouais, on n'est pas loin du crime, c'est vrai. Daniel Morin.
Bon, il est hors de question que j'aille voir cette pièce, bien évident, mais ce que j'aime bien avec Thierry Lhermitte, c'est que c'est vraiment l'invité parfait, il est sympathique, il est souriant, il est intelligent, et il sait nous offrir des textes qui sont d'une rare profondeur, et c'est ça que j'aime, c'est vraiment toutes les facettes de Thierry Lhermitte, l'homme et l'artiste.
Tanguy,
j'aimerais bien aller le voir, mais avec le nombre d'auditeurs qu'on a, ça fait une heure et demie qu'on en parle, il n'y a plus de tickets, c'est terminé.
Sans la soirée. Non mais qu'est-ce que vous aimeriez entendre à la sortie de la salle, justement ? Du théâtre Antoine, vous aimeriez que croiser comme ça d'une manière anonyme et être une petite souris qui entend le public dire quoi ?
Bah, j'aimerais bien qu'il se soit pas endormi déjà pendant
ce texte. Il y a peu de chance.
Qu'ils aient été touchés quoi. Le truc c'est que quand on fait un texte comme ça, faut disparaître un peu derrière. Parce que c'est un peu une mission hein, d'aller faire ça. Donc on n'a pas envie. On a envie d'impliquer les gens, de leur dire, de leur raconter qu'ils soient dans le truc, mais on peut pas se mettre devant. Donc
mais on met au service de sa popularité, Thierry Lhermitte, c'est que vous voyez ou non, que vous vous effacez, que vous effacez.
J'entends pas pour ça et
qu'on vous oublie voilà. En fait et qu'on voit que voilà. Simon Wiesenthal.
C'est ça qui me plairait.
Et se poser les questions comme l'a dit Leïla, on ne peut pas faire autrement de toute façon que de se dire qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place et
voilà que ça ouvre un petit peu.
Puis-je pardonner ? Ai-je le droit de pardonner ?
Ça ouvre un peu, que ça aille un peu plus loin que je pardonne pas, qui sont circonstanciels, qui voilà que ça amène un peu de réflexion.
Au 92-300, vous envoyez don DON, je le rappelle, et 10 euros viendront aider la Fondation pour la Recherche Médicale, FRM. Ils en ont besoin, hein, c'est leur seul moyen de travailler.
C'est un tiers du budget des chercheurs, c'est indispensable. Et tous les chercheurs que je vois disent vraiment, la FRM, c'est fondamental.
Ouais. Et il y a des progrès qui sont faits, il y a des découvertes qui sont faites, et il y a des solutions qui sont apportées pour soutenir ces chercheurs, et puis surtout permettre à toutes les maladies d'être concernées, que ce soit les maladies neurodégénératives, que ce soit les effets des facteurs environnementaux sur sur la santé. Toute la lutte contre le cancer, évidemment, il n'y a pratiquement aucune maladie, et je sais que les mots sont nombreux sur notre planète, mais il n'y a aucune maladie qui est
éludée, qui est laissée de côté. Voilà, c'est 400 projets chaque année qui sont financés, donc c'est indispensable pour la recherche médicale en général.
Et on peut saluer leur l'obstination de ces chercheurs qui ne lâchent rien, tout comme votre obstination à les soutenir, Thierry Lhermitte, en tant que brillant parrain. On ira vous voir et vous applaudir à partir du 16 janvier au Théâtre Antoine pour Fleurs de Soleil. Si. Merci mille fois.
Merci à vous, Thierry Lhermitte. Super sympa
d'être venu. On se retrouve. Merci à vous. Bonne journée. On se retrouve demain avec Jean-Louis Aubert. Et pour l'interview et pour du live, tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne émission, Philippe.
Merci les amis. À demain.